Mais non, tout n'est pas juridique. En plus, c'est une vision de l'économie extrêmement réduite, hein, puisqu'il oublie de dire que la politique monétaire ne relève plus de la responsabilité des États. Donc, Frédéric Lordon précise bien qu'il faut que les peuples se réapproprient la politique monétaire. Enfin, c'est une méconnaissance totale des mécanismes économiques. Enfin, je suis très, très, très outré. Je pense que c'était de la provocation. Salut Daniel. Merci.
J'aime assez cucu la praline.
En hommage à Régine Deforge, la coquine. Elle m'attendait, la coquine, en lisant le Marquis de Sade. Les infortunes de Justine me font rêver d'une vie moins fade, me dit-elle, mais votre présence pourrait, si le cul vous en dit, donner à ma triste existence un peu de piquant, cher ami. Cette Justine, lui répondis-je, a connu les pires tourments. Voulez-vous que je vous inflige d'aussi terribles châtiments? En amour, j'ordonne ou je sers, tour à tour maître ou serviteur. Je peux vous mener en enfer ou mourir pour vous de bonheur. La dame referma son livre, ouvrit largement son corsage, m'offrant ses seins comme on délivre le fleuve en brisant un barrage. Et ce jour-là, dans son boudoir, en l'absence de son mari, nous illustrâmes de mémoire le roman du divin marquis. C'était le poète coquin. Salut.
Oui, bonjour. Alors j'ai reçu ce matin une carte postale des Samsonites à Boston, comme tous les contributeurs à leur action, je suppose. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. J'espère que leur procédure sera jugée recevable pour que le procès puisse avoir lieu. On compte sur toi, Daniel, pour nous donner des nouvelles. Allez, salut.
Bon ben voilà, on est le 6 avril 2014 et c'est la première fois que je décroche mon téléphone pour appeler la bassiste ici. Je viens d'éteindre avec rage ma radio. Nous sommes 20 ans après et qui est-ce que France Inter décide d'interroger pour parler du génocide des Tutsis au Rwanda? Paul Quilès. Paul Quilès qui nous explique avec la voix qui tremble que la France n'est en rien responsable. Que les dirigeants d'alors ont seulement fait des erreurs d'appréciation. Je suis écœuré. C'était Sébastien, de Lyon.
Oui, bonjour, une revenante, Brigitte, à Paris. Simplement, à l'occasion des 20 ans de début malheureux du génocide du Rwanda, je veux dire à M. Mermet, Valentine, ben, merci de ce que vous avez fait pour elle, et merci de nous l'avoir fait savoir. On a mieux compris l'horreur. Valentine. Valentine, j'espère que vous allez bien. Au revoir.
Eh bien, il va y avoir des réponses à cette question dans l'heure que nous allons passer ensemble, une heure ou presque. D'abord, je voulais remercier cet auditeur qui remercie les Samsonites, les ouvrières qui sont allées à Boston se battre devant le tribunal. Et que vous avez financé, hein, on vous avait demandé de les soutenir si vous vouliez, et ça a très bien marché. Au total, ça fait 20 000 euros, oui, pas mal quand même, qui les a soutenus au cours de ce voyage et de leur démarche et de leur lutte, et que nous espérons évidemment victorieuses, mais bien sûr qu'on vous tiendra au courant. Et je vois qu'elles ont adressé des petites cartes postales de remerciement depuis l'Amérique à ceux qui les ont soutenues. C'est très sympa, ça fait beaucoup de bien. Oui, alors Valentine, le Rwanda, 20 ans après, on entend une guerre des mémoires, vous entendez, on voit se déployer à nouveau, une fois de plus, le cynisme des États, on assiste à une certaine agitation médiatique, on ploie sous le poids des publications, ça c'est le business éditorial. Tout ça c'est comme d'habitude, as usual comme on dit, mais on peut encore se demander si le 20e anniversaire du génocide du Rwanda apportera et pourrait apporter quelques lumières et quelques pistes pour aller vers un « plus jamais ça ». Je dis ça parce que ce « plus jamais ça » a été prononcé il y a 20 ans pour l'anniversaire du massacre d'Oradour-sur-Glane. Ça vous dit quelque chose, bien sûr. Françaises et Français que nous sommes, ça nous dit quelque chose. Le massacre d'Oradour-sur-Glane, eh bien, il y a 20 ans, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, prononçait, bien sûr, la phrase consacrée, l'expression consacrée, plus jamais ça. Or, au même instant, exactement au même instant, dans un pays qu'il connaissait bien, que le pouvoir français connaissait bien, eh bien, on massacrait, oh, allez, 10 000 personnes par jour, hommes, femmes, enfants. Plus jamais ça. Et tout ça se passait au vu et au su de tout le monde. Je suis d'une génération qui a interrogé par la suite, après la guerre, qui demandait aux parents, mais vous saviez ce qui se passait, les juifs, tout ça, vous saviez? Et nos parents étaient outrés, ils nous disaient, mais comment tu peux poser une question pareille? Bien sûr que si on avait su, on serait intervenu. 50 ans après, j'étais au Rwanda et on savait, il y avait assez de journalistes pour tout faire savoir. On savait, au jour le jour. Et pendant 100 jours, le monde a regardé ailleurs. La France, la Belgique, les États-Unis, les Nations Unies, les casques bleus, tout ce que vous voulez. Et les Africains aussi, les pays voisins. Tout le monde a regardé ailleurs. Et ce mépris a engendré génocide, massacre et dictature. Une terreur muette règne aujourd'hui sous la réussite apparente du Rwanda. Et dans tous les discours officiels, prononcés aujourd'hui même au Rwanda, la phrase qui revient le plus souvent, c'est « plus jamais ça ». Nous, on va revenir il y a 20 ans. Nous étions au Rwanda le 23 mai 1994. C'est une grande date pour nous, et pas seulement pour nous, bien sûr. Je parle de la Bassi J'y suis, je parle de Jérôme Bastion de Radio France Internationale avec qui j'étais à ce moment-là. Nous avions réussi à rentrer au Rwanda. Et nous avons été les premiers avec une escouade du FPR et quelques journalistes tanzaniens. Nous avons été les premiers à arriver sur le charnier de Nyarubuye, 40 jours à peu près après le massacre. Et c'est ce que nous allons revenir sur ces pas-là, sur nos pas et sur ce que nous avons découvert à cette époque-là. Auparavant, non, pas de message auparavant. On va directement sur cette mémoire et sur cette histoire et sur quelqu'un qu'on a trouvé dans ce charnier. Vivant.
Comment tu t'appelles?
Nezegeyeman.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ce sont les miliciens du Nerahamwe.
Qu'est-ce qu'ils t'ont fait?
On m'a fait un coup de massue.
Quand?
Je me souviens plus.
Et où est ton papa? Où est ta maman?
On les a tous tués.
Tu as vu ça?
Oui, j'ai vu.
Tu es tout seul?
Je suis seul.
T'as pas des frères, des sœurs?
On les a tous tués, il ne me reste plus rien.
Redis-moi ton nom.
Nezegeyeman. J'ai 10 ans.
On a tué ma femme, on a tué mes deux bébés. On a tué ma vieille maman, vieille maman. On a tué mes sœurs mariées, les maris, et les neveux, les nièces, etc. Non, c'est beaucoup.
Ils ont brûlé notre maison. Mm-hmm. Et puis ils ont pris... Mon bon père était vieux. Mm-hmm. Ils l'ont pris. Et puis mes deux enfants. Ils ont d'abord coupé la tête ainsi que le sexe du bon père. Et puis ils l'ont mis là-dedans. Et ils l'ont brûlé le cadavre.
Le génocide, c'est un crime qui ne vieillit pas.
L'image, c'était le premier Tutsi que j'ai tué. Je le connaissais.
Tu sais son nom?
Oui.
Rwabera.
Il s'appelait Rwabera.
Et tu l'as frappé?
Oui, sur sa tête.
Tu te souviens de ton premier Tutsi?
C'est quelqu'un qui s'appelle Clément. C'est lui que j'ai frappé le premier.
Mais toi?
Moi, c'était une femme que j'ai frappée. J'ai frappé très fort.
Elle était consciente?
Oui, elle me regardait, elle me fixait.
T'en as frappé combien comme ça?
Comme nous étions nombreux, je frappais, j'avançais, les autres derrière continuaient à frapper celui que j'avais déjà frappé. Je frappais, frappais. C'était plein, je frappais sur beaucoup de têtes. Moi, ce dont je me rappelle, c'est que les gens qui sont morts, c'était nos voisins, nos amis. Ceux qui sont morts ont partagé tout. Maintenant, je regrette. Je ne peux pas comprendre ce qui m'a poussé à tuer mon voisin.
Quand ils sont arrivés les Français, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de tuer les gens? Nous sommes venus, nous leur avons montré les cadavres, les corps. Nous leur avons montré ce qui s'était passé ici. Alors ils ont fait demi-tour. Quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. Alors ils sont revenus, l'armée française est revenue en force, après, pour constater, ce n'était que des cadavres. Des corps jonchés cette colline. Tu vois ici.
Mais vous parlez pas des massacres. Il y a eu des massacres considérables au Rwanda.
Pardon?
Il y a eu des massacres au Rwanda.
Quand est-ce que...
Là, c'est encore pire. Dans un tourbillon, il y a un amalgame, une véritable grappe de corps comme ça. Une femme, une autre femme, un enfant, des chairs blanchâtres, bleues, encore un peu habillées dans les herbes. Et ils tournent en rond, c'est comme une danse, c'est comme une... Il y a un enfant, très... Les suppliciés, les sacrifiés, les damnés, les massacrés.
On se demande combien ça fait en tout. Parce qu'on a sous les yeux, là, je vois une jambe de gosse pris dans les rochers. On voit que c'est une jambe qui flotte. Après, dans l'herbe là-bas, qui tournoie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On n'ose pas, on ne sait plus si c'est du bois qui flotte, si c'est du corps, si c'est... Et là-bas, de l'autre côté du bras, dans les herbes là-bas, ça tournoie encore, ça brille un peu sous le soleil. Il y a encore... Et puis il y a tous ceux qui passent dans les remous, qui doivent passer dans les remous, qu'on ne peut pas voir à cause des vagues, enfin de la mousse dans l'eau. On voit que ceux qui sont retenus quelques instants comme ça avant de repartir. Des gros, larges tourbillons. Et je rêve là, il y a des fleurs dans les arbres, il y a des papillons, il y a des oiseaux, il y a très très beau qui, si on a, là-bas il y a encore d'autres petites singes noires qui sautent de pierre en pierre. Et là, sous moi, j'avais cru que c'était une fleur un peu bleue et mauve, c'est une chaussure de femme qui a été jetée comme ça, dans la précipitation. C'était le 23 mai 1994 et les corps étaient de la même couleur que les eaux du fleuve. On voyait un adulte, on voyait deux enfants, on voyait un bébé qui tournoyait dans les remous par deux ou par grappes, sans tête, sans bras, parfois à pieds et poings liés. Et les cadavres, étrangement, étaient devenus pâles comme nos corps de blanc. Au-dessus de nous, en haut de la chute, on voyait apparaître un corps, et puis un autre, encore, suspendu un instant
sur le vide et puis qui tombait à pic et qui disparaissait dans le grondement. Et soudain, j'ai fermé les yeux. C'était comme une brochette géante à contre-jour. Plusieurs corps, adultes, enfants, une famille entière, embrochée sur une longue et mince barre de fer, suspendue un instant, puis qui a basculé en tournoyant dans le bouillonnement. Et quelque chose de bien plus vaste s'effondrait alors, de bien plus profond, pas seulement à cause de l'horreur, mais à cause des causes de l'horreur. Une faillite de l'humanité et de l'humanité intime de chacun. Nous n'étions pas témoins d'un malheur de plus, un tremblement de terre, une épidémie, ni même une soudaine flambée de haine raciale, pas plus qu'une quelconque guerre tribale, même ethnique. Non, ni fatalité, ni accident, mais un accomplissement. L'accomplissement prévisible, annoncé, planifié d'une extermination de masse médiatisée en direct. On estime que 75% des Tutsis du Rwanda ont été, en 3 mois, massacrés, soit environ 12% de la population. Si nous rapporte ces chiffres à la France, c'est comme si près de 8 millions de Français avaient été pourchassés, violés, découpés, achevés par des tueurs consciencieux, zélés, joyeux. Des corps qui auraient été entassés dans les rues, dans les églises, dans les écoles, dans les hôpitaux, des hommes, des femmes, des enfants. Et ceci 3 mois durant, suivant un planning précis, avec de la musique et des conseils à la radio pour tenir la cadence, avec des plages de repos prévues et des primes pour les travailleurs partant au boulot, en chantant, rentrant le soir pour déguster une bière et s'endormant serein dans un pays devenu une immense boucherie, un gigantesque charnier, sans un seul pouce, sans un seul centimètre de terre qui n'eût été gavé de sang. Si ces morts nous regardent toujours dans les yeux, c'est parce qu'ils ne sont pas le résultat des forces aveugles de l'histoire, mais d'une entreprise humaine, politique, réfléchie, planifiée, moderne, et sur laquelle nous avions prise, à tout moment, il était possible d'arrêter le massacre. Le pays des 1000 collines, le Rwanda, c'est la Suisse de l'Afrique, une sorte d'Autriche avec des bananiers. Bien loin de l'image d'une Afrique primitive, bariolée, nonchalante et naïve. Non seulement durant 3 mois, le déroulement du génocide fut parfaitement maîtrisé, administré, discipliné, parfois encouragé et béni par l'Église, mais l'extermination avait été pensée depuis des années, établie selon une idéologie conçue par une élite politique éduquée et mondialisée. Élite qu'on appelle aussi la quatrième ethnie, aux côtés des 3 ethnies définies par les théories raciales des colonisateurs belges et des missionnaires, à savoir les Hutus, 85%, les Tutsis, 14%, et les Twa, 1%. On désigna à côté une 4e ethnie, celle des élites, qui assurait la domination en utilisant la démagogie ethnique pour mobiliser leurs troupes, en diabolisant l'autre race comme un fléau mortel dont il est urgent et salutaire de purifier radicalement l'humanité. Vous le savez, ce jour-là, ce 23 mai 1994, à Nyarubuye, une paroisse au sud-est du Rwanda, nous avons trouvé une fillette qui s'appelle toujours, grâce à Dieu, Valentine. Et c'est d'abord cette rencontre, ces retrouvailles que nous allons célébrer, non pas pour la mise en scène avantageuse de notre générosité sur le théâtre du malheur des autres, mais pour contribuer à éclairer les causes et les responsabilités. L'histoire du génocide du Rwanda sera longue à écrire, ce travail est en cours. Malgré le mot, le génocide du Rwanda ne préoccupe que des cercles limités et spécialisés de l'opinion. Et longtemps, on le sait, le génocide des Juifs et des Roms a occupé une place secondaire et vague dans les esprits. Il a fallu une génération pour que l'humanité prenne conscience de la dimension de ce crime contre elle-même. L'oubli n'était pas seulement dû à l'étourderie des hommes. Les mêmes forces de négation et de blanchiment sont à l'œuvre aujourd'hui avec la mémoire du Rwanda. Les assassins de cette mémoire, comme ses proxénètes. Il faut du temps pour comprendre ce que l'on ne peut pas imaginer. Il faut du temps pour comprendre que c'est arrivé à nouveau et que nous n'avons rien fait alors que nous savions. Mais il faut refuser la culpabilisation généralisée. Il y a des responsabilités. Les nôtres sont de contribuer à définir ces responsabilités et les causes du désastre. Il faudra beaucoup de temps pour absorber ce nouveau bloc d'abîme. Car comment garder la foi dans une justice, la foi dans une politique, la foi dans notre capacité à fabriquer de l'évitable. Mais, il y a toujours un mais, il faut toujours un mais, même si nous ne croyons plus à grand-chose. Soma Bulano, Rhodésie, 1896, disait ceci. Vous pouvez nous exterminer, mais les enfants des étoiles ne seront jamais des chiens.
Qui a une blessure au bras. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Les milices sont venus. Ils nous ont pris, nous étions au nombre de 6. Ils nous ont déshabillés. Ils voulaient nous ligoter, nous jeter vivants dans la Kagera. Et puis je me suis plongé dans la Kagera comme je savais nager. Je suis passé sous l'eau. À 20 mètres après, je traversais. Et quand je suis remonté, sur la surface, ils ont tiré à l'arc et la flèche est passée à traverser de mon bras. Et puis je me suis encore enfoncé sous l'eau et je me suis retrouvé sur la frontière, la rive tanzanienne.
Avec la flèche dans le bras.
La flèche avait traversé.
Un témoignage comme on peut en recueillir des centaines, des milliers, de la part des gens qui ont fui l'avancée des milices. Je disais que les massacres étaient prévisibles, le fameux radio des mille collines. On a entendu des choses comme ça, il faut couper les têtes des Tutsis et que par un court chemin qui est le Nil, ils retournent chez eux en Abyssinie. Et cet appel au génocide a été prononcé en décembre 1992, par Léon Mugesseras, qui était membre du comité exécutif du MRND, c'est-à-dire le parti du président, qui à ce titre était l'un des premiers lieutenants du président Habyarimana. Et donc avec un an et demi d'avance, il annonçait des dizaines de milliers de cadavres qui sont charriés aujourd'hui sous nos yeux même par le fleuve à Kagera. Là, on va avec une escorte, on a franchi le pont à l'autre bout. On a rencontré des gens du FPR, des soldats du FPR, des porte-parole du FPR, et ils ont voulu nous montrer un endroit où un massacre, selon eux, a eu lieu sans qu'ils en soient très très sûrs. C'est à 50 km à peu près de ce poste frontière et c'est une paroisse. On pense qu'un massacre a eu lieu sans qu'on y soit retourné. Le massacre aurait eu lieu vers le 16-17 avril et on est exactement le 27 mai. Et on trouve enfin quelqu'un qui peut nous guider, c'est un certain Gaspard. Gaspard est un séminariste qui se trouvait dans cette paroisse, dans cette église, au moment où les massacres ont eu lieu. Alors on fait toute une route, 2 heures à peu près de pistes de terre rouge, sans pas âme qui vivent de temps à autre, des troupeaux perdus qui errent, quelques vaches, quelques chèvres qui errent, de temps à autre des maisons brûlées, des maisons qui ont été pillées, qui ont été dévastées, d'autres maisons qui n'ont pas été touchées. Et après des heures, on arrive après peut-être 2 heures de piste, on est en escorte, on est avec des gens du FPR, avec des soldats et aussi avec 3 journalistes tanzaniens qui nous accompagnent. Il y a 2 voitures, une Land Rover et un petit combi qui nous suit. Après donc des heures, on arrive là.
Il est 16h22 à Kigali, dans le blindé de la FLN. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent. Le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas des Rwandais.
Daniel, ça. Mais j'essaie de se réfugier, Daniel. Ah, on va s'arrêter.
On va essayer d'entrer dans l'église. C'est une église en briques. C'est une odeur épouvantable.
L'odeur est tabernacle. L'hôtel. À l'hôtel même. On peut voir, vous voyez le cadavre.
Ouais, je sais pas, je vois. Ça partait entre les bancs, partout. Mmh. Des cadavres.
Vous voyez, ce sont des gens qui essayaient de se réfugier ici, dans les couloirs, derrière les murs.
Mais ils ont été tués comment? Avec des grenades avec...
Des grenades, oui.
C'est des grenades
qui ont été... Des gendarmes, et des gens, des intérêts qui étaient entraînés.
On avance dans la mort.
C'est dans... Vous voyez les
c'est
chiens?
C'est terrible, terrible.
Les chiens sont en train de manger les cadavres. Vous voyez, une personne...
On va complètement décomposer un os qui sort d'un tas de tissu.
On peut sortir?
Oui, on va sortir, on va sortir. Ah!
À l'intérieur, il y en a beaucoup.
Hein?
À l'intérieur de la maison. À l'intérieur même de l'église.
Qu'est-ce qui s'est passé?
À l'intérieur même de l'église.
Comment s'appelle la paroisse?
Ouais. C'est paroisse Nyarouye. Les gendarmes, ils étaient ici près. Quand je prenais la fuite, j'ai pris la forêt ici.
Mais tu étais avec les gens, toi, tu étais avec
oui,
eux.
Oui,
j'étais avec eux. Mais raconte-moi ce qui s'est passé.
Nous avions accueilli plus de 2500 personnes.
Dans l'église?
Ici.
Ces gens sont venus se cacher dans l'église.
Justement, ils venaient ici parce qu'ils croyaient trouver la protection, la sécurité ici. Et les gens prenaient la fuite en se réfugiant dans les maisons des religieux et religieuses. Ici, c'était une maison. Il y a un couvent des sœurs. Ici, c'est la maison des abbés. Alors, les gens, il y a la femme, les enfants, les gens qui n'ont pas pu échapper à la mort. Vous voyez les cartes d'identité ici, par exemple. C'est une carte d'identité.
Carte d'identité.
Mais c'est, vous voyez...
Le nom est effacé.
Effacé. Mais quand même, la figure de la personne, on peut...
Voilà.
Ceux qui avaient la force de se...
T'as sur quoi tu marches? C'est des ossements humains. Tu marches sur
des ossements. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Alors, vous voyez, ceux qui avaient la force, nous avons pris la fuite. Ça ici, les enfants, les femmes, même les parents. Les parents qui avaient des enfants, qui ne pouvaient même pas prendre la fuite avec toute la famille. Tout le monde essayait...
De sauver sa vie.
De sauver sa vie. À l'intérieur de la maison, dans les
couvents
des
sœurs. C'est fou. Oh, c'est l'odeur, putain.
Un écolier.
N'ose pas. Il y a des chiens qui... On passe dans une autre cour.
C'est fou, fou, fou. Il y a les... des fleurs, des iris jaunes.
Vous voyez,
des fleurs d'argent.
J'ai cette chambre là, dans le coin.
Et là, il y a les cadavres, des cadavres. Des cadavres. Des crânes. La chair encore un peu sur les crânes.
C'était la chapelle.
Ah!
C'était ma maison. J'habitais ici. Je peux même voir les lettres.
Ça, c'est ton courrier. Mmh. Là, il y a un bébé.
On met du temps à comprendre ce qu'on voit. Il faut beaucoup de temps pour que ces images-là se développent dans votre esprit, dans votre imagination, dans votre corps, littéralement. Gaspard nous raconte comment ça s'est passé, comment, avant ce massacre, des hordes de miliciens et de gendarmes passaient complètement hystériques dans les villages et gueulaient « Demain, on va vous tuer, demain, on va vous tuer ». Alors les habitants sont partis, se sont groupés, réfugiés dans cette paroisse. Ce n'est pas une paroisse au sens où il y a des maisons, il y a juste une église, ces églises que les Belges ont construites à la grande époque de la colonisation, je ne sais pas, dans les 35-40 en briques roses, style vaguement flamand, ça rappelle un peu ça. Et les gens sont tous venus là, parce que dans les massacres précédents, ça s'arrêtait aux églises, on arrivait à être protégé dans les églises. Alors, voilà, je vous raconte pas tout ce qu'on voit, je peux pas tout décrire, c'est impossible, c'est insupportable, les mots manquent évidemment. C'est au-delà de l'horreur. Ah, c'est absolument épouvantable ce qu'on voit, c'est fou. Quantité de gens qui sont allongés, des corps en décomposition. L'odeur est absolument épouvantable. Là-bas encore des corps. Non, on ne peut plus avancer. S'il y a avec des fleurs jaunes partout. C'était le jardin potager, ils ont essayé de fuir par là. Ils sont des positions grotesques et c'est épouvantable. Et là, il y en a une quantité. Encore. La mort. Oh. Ah non. Ah là-bas, ils sont des centaines et des centaines et des centaines. Il y a des mouches partout. Oh.
C'est beaucoup.
Le soldat se barre. Le soldat, là, notre escorte, se barre complètement. Des centaines, il faut que vous imaginiez des centaines et des centaines de gens. Empilés, des tissus. Une puanteur, des corps encore boursouflés, d'autres desséchés, les crânes qui apparaissent avec un peu de chair encore dessus. Et un silence autour. Et puis ces gars qui sont avec nous, c'est... les gars du coin... Ah, il y en a encore là, dans l'herbe. L'herbe les recouvre. Oh. Qu'est-ce qu'il y a?
Un gosse vivant.
Un enfant ?
Un enfant.
Au milieu de tous ces cadavres, viens.
Ça fait un mois et demi qu'il est là.
Un mois et demi. Oh !
Où allez-vous ? Allez, cadavérique.
J'ai pas le courage d'avancer parce qu'il faut marcher sur des cadavres. Elle est là, elle vit là. Elle est en train de... Elle a un petit miroir. Elle a des genres de patates. Elle a de l'eau. Elle a un tout petit bout de tissu sur elle. Elle est... C'est invraisemblable ce qu'on voit. C'est invraisemblable. C'est fou. Il y a une odeur pestilentielle. Elle a la main complètement atrophiée. Complètement noire. Elle a la gangrène à une main. C'était encore un peu de vie dans toute cette mort. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'emmener avec nous?
On l'amène.
C'est marqué où tout de suite Tout de suite, c'est marqué où Ah, ici, Outou Barré.
Outou Barré. Toi aussi, ici, c'est Barré. C'est tout de suite, ici.
Elle vient de protester, elle dit, bah, vous me prenez ma nourriture, donc tiens beaucoup à cette nourriture parce qu'elle a vécu dans une situation où il n'y avait plus pratiquement rien.
Mais depuis combien de temps elle est là?
Non, justement.
Depuis le massacre?
Depuis le massacre. C'est vers la date du 14, 16, comme ça.
Depuis 14 avril. Et on est le 27 mai.
Finalement.
Donc voilà, il la porte dans la couverture. Et elle tient beaucoup à sa nourriture. Elle a demandé... Il y a un pied par terre. C'est macabre. C'est du délire. C'est fou. C'est une folie. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu une chose pareille?
Non. I think the first time it was at Rousseau.
The first time, la première fois quand j'ai vu ça, c'était sur la rivière de Rousseau.
Kagera River.
Dans la rivière de la Kagera.
C'est
la première fois que je voyais beaucoup de cadavres comme ça.
Tu as déjà vu quelque chose comme ça?
Non, never in my life.
Jamais.
It's terrible.
Qu'est-ce que tu penses?
Oh, I think this is a terrible thing to see and to do at all. You can't do such a thing in life. It's impossible.
On ne peut pas penser à ce que des choses pareilles puissent se passer dans ce monde.
On ne pense jamais qu'on pourrait avoir une chose comme ça dans sa vie. C'est des journalistes de Tanzanie qui sont là avec nous.
Ils ont voulu me couper la tête et comme on m'avait dit que chaque fois qu'on fait un coup de machette au niveau de l'oreille et qu'on meurt directement, j'y ai placé ma main et voilà que c'est mes doigts qui ont payé. Ils me tabassaient avec des massues, avec des gourdins. Puis je les ai laissés parce que je ne pouvais rien.
Hano muri muri iki kigo cya paroisse ahantu wihishe mbere ni hehe?
Mungoma. La première fois je me suis caché dans l'église et au milieu des tambours. Puis je me suis caché de l'autre côté vers le couvent des sœurs.
Cette momie. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire une chose. C'est-à-dire les gars qui sont autour, les militaires avec des mouchoirs sur le nez, le gars, le séminariste là, avec sa casquette et son mouchoir, les bidasses avec leurs baskets et leurs calaches qui sont autour, et cette gamine avec des grands yeux. Extraordinaire.
Hier, quelqu'un est passé. J'étais dans la maisonnette. Ils étaient à deux, ils avaient un poste récepteur. Puis quand j'ai entendu la radio, et puis je me suis dit que c'était une autre attaque, et je me suis caché davantage. Ce jeune homme l'a regardé, puis il est reparti. Cet homme-là, il a rebroussé ses mains après ne m'avoir pas vu. Et je me suis dit à un moment donné, si j'avais manifesté que j'étais là, peut-être que ce serait quelqu'un qui venait pour me sauver, mais je me suis dit que c'était quelqu'un qui pourrait m'achever. Je me suis tué. Et je l'ai regretté à un moment donné. Oui, je savais très bien qu'autour de moi, il n'y avait que les cadavres. Je voyais des corps allongés, des gens qui étaient nus. Donc, tout ça, j'ai vu, je voyais mes demi-frères, mes cousins, je les ai vus, dont Moulefou, un oncle à moi.
Comment, à quoi tu pensais pour tenir? À quoi tu pensais tout le temps? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu pensais?
Comme j'avais un seul billet de 100 francs rwandais, J'ai cherché ce billet, je ne l'ai pas trouvé, mais j'avais pensé à me procurer quelque chose, mais où? Et tout ce que je me disais, et si je voyais quelqu'un pour lui envoyer m'acheter du pain avec mon billet de 100 francs? Dans ma vie, je ne rêvais qu'un jour, il faudrait que je voie ne fût-ce qu'une seule fois le pain. Je cherchais le pain. Je souhaitais avoir un Fanta, mais je ne trouvais rien.
On est en train de la prendre, elle est très légère évidemment. Et on va la mettre dans le petit combi Toyota avec les militaires. Ah, il y a des gars qui ont pensé à lui prendre sa petite natte, une natte, voilà. Il y a une chose extraordinaire que je voudrais rajouter, c'est qu'on a transporté, au moment où Gaspard a pris Valentine dans sa espèce de cabane où elle s'était réfugiée, elle a absolument voulu emporter quelque chose, et c'était un tout petit miroir, un petit miroir en plastique comme ça, qu'elle a voulu absolument emporter avec elle.
Malgré tous nos efforts, les militaires du FPR n'ont pas voulu nous permettre d'emmener Valentine avec nous parce que nous n'étions pas loin de la frontière avec la Tanzanie et de l'autre côté de la frontière, il y avait un grand camp plein d'humanitaires, le camp de Benakoum. Ils n'ont pas voulu, ils sont partis avec cette petite qui était dans un très très sale état. Et on s'est dit avec les amis, avec Jérôme, c'est foutu, on la reverra pas. Et puis l'année suivante, je suis parti à sa recherche, je suis retourné au Rwanda avec le même traducteur, Salvatore, et le même chauffeur, Sakamai. Et on est parti à la recherche de Valentine, vous connaissez peut-être l'histoire, on a fini par la retrouver. Et ça a été bouleversant, ces retrouvailles. Elle m'a demandé de lui acheter une vache, ce que j'ai fait. Et puis après, on est resté en contact avec le temps. Petits mots, maintenant c'est des mails, elle est venue à Paris, je l'ai fait venir à Paris, etc. Enfin, la relation est restée. Et puis, 20 ans après, il y a deux jours, avec Give, on l'a appelée, parce que maintenant, Valentine parle anglais, elle habite aux États-Unis, elle habite à côté de Chicago, et exactement de Milwaukee, exactement, précisément. Et elle a changé, elle a évolué, et voilà la conversation que nous avons eue.
Yes.
Allô?
Can you hear me now?
Ah, c'est Valentine?
Yes, I am.
Ah, here is Daniel.
Oh, hi!
Ouh, mais dis donc, tu parles drôlement bien anglais. You speak very well English?
Yeah, I do, of course. It's going to be like almost 5 years being in America, so I speak English.
Oui, bien sûr que je parle anglais, parce que ça fait bientôt maintenant 5 ans que j'habite aux États-Unis.
Et Valentine, tu as eu un bébé?
I do have a baby for 1 month.
Oui, elle a 1 mois maintenant.
1 mois. Comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Ishesha Shea Shalom. Ishesha means proud.
Ishesha, ça veut dire fier.
Yeah, Shea Shalom means to share with the other people peace.
Et Shea Shalom, ça veut dire partager la paix.
Wow!
Fier de partager la paix, ça veut dire.
Bravo, c'est génial!
Thank you!
Tu sais que depuis 20 ans, les auditeurs de l'émission parlent de toi.
Oh my God, do they still remember me in Paris?
Ça veut dire qu'on se souvient encore de moi à Paris?
Ah oui, on se souvient de toi à Paris, les auditeurs régulièrement disent. Mais qu'est-ce qu'elle devient, Valentine? Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Tu vis où? Tu vis à Milwaukee?
Yeah, I live in Milwaukee.
Qu'est-ce que tu as? Tu as un job? Tu travailles?
Yeah, I do work.
Oui, je travaille.
There's a business here in the hotel, so I do work in front desk.
Moi, je travaille à la réception dans les business de l'hôtel.
Oui.
So when you come there, I'm going to receive you.
Et quand tu vas venir là-bas, c'est moi qui vais t'accueillir à la réception.
Ah, mais fais attention parce que je vais vraiment venir. Génial.
Yeah, thank you.
Est-ce que les gens te demandent souvent de raconter ton histoire?
Oh, yeah. When I came here, actually, I used to go to different schools, like New York, like Washington, D.C., like New Hampshire.
Oui, quand je suis arrivé, on me demandait souvent que j'allais faire des conférences, parler dans des écoles à New York, dans Washington, D.C., dans le Vermont, dans le New Hampshire, et partout, on me sollicitait pour aller parler.
Yeah, and my goal is to educate the people here about genocide, especially young people.
Ma volonté, c'est vraiment d'enseigner, d'apprendre aux jeunes, spécialement aux jeunes ici, ce qui s'est passé, leur apprendre l'histoire du génocide du Rwanda.
I saw them all happen to my country, not just to me, to all Rwandans.
Je ne raconte pas simplement mon histoire, mais ce qui est arrivé à tout mon pays, au Rwanda.
And after that, I showed them how the people struggled after, and how some of them still struggling, of course, because those who living there are still traumatized. They still during remembering, especially this time in April, some of them they are traumatized.
Oui, et puis je leur raconte après comment la vie a continué, comment les gens aujourd'hui vivent encore, comment beaucoup de gens sont traumatisés, spécialement à cette période de l'année, à un moment des commémorations. Comment pour beaucoup de gens c'est difficile parce que le traumatisme revient.
So my goal is to teach them, to show them what was happening to us as a Rwandan in general and myself and how I survived.
Et donc je leur parle de ce qui nous est arrivé à nous tous aux Rwandais et puis ce qui m'est arrivé à moi aussi, comment j'ai réussi à survivre.
Ok, ben écoute, c'est un bonheur de t'entendre. Tu as complètement changé. T'as un bébé, tu parles sans arrêt, c'est génial, c'est une transformation.
Yeah, I'm so proud to be a mother, Dan.
Mais maintenant, je suis tellement fier d'être une maman.
Oui, tu as raison.
Merci beaucoup.
Thank you so much, be safe, and I'm so glad to talk to you.
Merci encore et portez-vous bien.
Yeah. Je t'embrasse, Valentine.
Bye!
Merci à tous et à toutes. Gaspard Ngarambe, Jérôme Bastion, Salvatore Mouvier-Couré, Sakamaï, Guy Vanctil. Beaucoup de bouquins sortent sur le sujet. Je vous recommande Le génocide au village, Le massacre des Tutsis au Rwanda, le livre d'Hélène Dumas qui sort au Seuil, le livre de nos confrères Benoît Colomba et David Servenet sur Au nom de la France, guerre secrète au Rwanda, le petit livre très efficace de Colette Brackmann aussi qui vient de sortir. Renseignez-vous, travaillons, apprenons sur ce qui s'est passé. C'est la seule chance que nous avons, c'est la seule arme dont nous disposons. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis il y a des photos sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Xavier Chocron et Bertrand Durand. L'émission a été réalisée par Franck Aderer et Guillaume Giraud, préparé avec Jonathan Duong et Stéphanie Fromentin. Attend vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On continue demain au Rwanda, avec le Rwanda. Tout de suite, vous allez retrouver le camarade Hervé Pochon pour son temps de Pochon. Et moi, je vous dis à demain.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce qui se passe ici?
C'est en cours de démolition pour être reconstruit. En fait, il y avait des logements sociaux et voilà, ils sont en train de tout changer. En fait, on est sur les lieux ancestraux où Athédé Carmonde est né, en fait. Il y avait un bidonville ici dans les années 50. Et c'est là qu'il y a eu une association d'habitants qui s'est créé et qui est devenu Athédé Carmonde en fait.
Ça veut dire quoi Athédé Carmonde?
Oh là, alors Athédé c'est pour agir tous pour la dignité et Carmonde c'est un terme qui est dérivé des cahiers du 4e ordre. C'est pendant la Révolution française du Fournier de Villiers qui s'était rendu compte qu'en fait on interrogeait les curés, on interrogeait les nobles, on interrogeait les bourgeois, mais en fait les pauvres on les entendait pas. Et donc il a décidé de récolter la parole des gens les plus pauvres dans les cahiers du 4e ordre. Et donc voilà, Carmonde, ça venait entre tiers-monde et 4e ordre, voilà.
Bonjour à tous et bienvenue à Noisy-le-Grand. En pleine cité, mais en fait on a un peu l'impression d'être à la campagne parce que comme la cité a été détruite, on voit un champ devant nous, mais bientôt vont pousser des logements.
C'est ça, voilà, des logements sociaux à différents niveaux en fait.
Et alors, que fait Athédé Carmonde en fait?
En général, notre objectif c'est juste d'éradiquer la misère, voilà.
Oh bah ça va, ça va être vite fait là, après demain vous ferez quoi alors?
Ouais, c'est ça, il nous reste quelques jours, puis après bah, c'est la retraite. Hein.
Alors justement, vous n'êtes pas désespéré d'éradiquer la misère? C'est une faillite totale. La misère n'arrête pas d'augmenter, il me semble.
Oui, effectivement, on voit que la pauvreté augmente, il y a le plus de gens sous le seuil de pauvreté. Nous, on se raccroche à ce qu'on a pu gagner quand même. C'est-à-dire qu'entre les années 50, où ça a commencé ici, et aujourd'hui, on a fait évoluer les lois, par exemple. C'est-à-dire qu'on a permis la création du RMI. De la CMU, donc les gens peuvent se soigner. Enfin, voilà, la misère, la pauvreté est plus aussi dense, on va dire, que dans les années 50. Mais on a encore du boulot, ouais.
Et votre prénom?
Tiphaine.
Et pourquoi vous êtes sur le trottoir, là?
Parce qu'en fait, on présente un bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle « Si loin, si proche », et c'est une personne, une bénévole de chez nous, qui a vécu dans la cité avant qu'elle soit démolie. Parce qu'elle était en fait, petit à petit, on faisait partir les gens, on les logeait ailleurs et tous les appartements étaient murés les uns après les autres. C'était super glauque pour les gens qui restaient. Et donc, on a proposé à des bénévoles de venir vivre ici. Et Anne vient d'arriver.
Bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez vécu dans ces immeubles?
Oui, enfin, ces immeubles, non, parce qu'il n'y en a plus, là.
Oui, c'est ça. C'est...
Mais,
qui ont été rasés, quoi.
Voilà, ouais, sur ce qui est un terrain vague, là, avant, il y avait des pavillons.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'habiter là-dedans?
Ben, c'est Athédé Carmonde qui me l'a demandé.
Ouais, enfin, vous étiez libre, quand même, on ne vous a pas forcé, on ne vous a pas mis un pistolet sous la tente.
Mais c'est la question d'être forcé, mais qu'est-ce qui me... Moi, j'aurais jamais eu l'idée toute seule. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui me dise, bon, voilà, il y a cette possibilité-là. On a pensé que... Au moment de la démolition, et on le sait, on le voit, les gens sont très 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 perturbés par ce qui se passe. Et donc au lieu de murer des pavillons, eh ben, si quelqu'un les habitait et qu'il y avait de la vie qui continuait là, ça serait moins dur pour les gens. Ça m'a paru vachement juste. Et puis voilà, et puis j'ai l'âge que j'ai, j'étais veuve, je pouvais le faire.
Alors, jusqu'au dernier moment, vous êtes restée et...
Non. Non, je ne suis pas restée jusqu'au dernier moment, et d'ailleurs je m'en veux beaucoup. Mais voilà, je m'étais engagée pour 6 mois, 6 mois c'était passé, je suis restée 10 mois, et puis au bout de 10 mois, j'ai dit bon, ben voilà, je mets un terme, ça devait se démolir, ça ne se démolissait toujours pas, ça se dégradait beaucoup, et c'est pas pour ça, c'était juste que je me disais, bon ben, Voilà, maintenant, il faut que je travaille à Paris, j'y allais tous les jours.
Ah oui.
C'était pas du tout comme d'être, vous savez, comme de vivre là, puis d'aller faire mon petit marché, je me mets tranquille. C'est pas ça, je prenais le RER, bon, au bout d'un moment, je dis, ouais, ça va.
Et quand vous êtes parti, il restait encore d'autres gens qui attendaient vraiment la fin
Oui, les volontaires sont restés jusqu'au bout du bout, absolument.
Mais vous, alors après, quand vous avez quitté là, vous êtes retourné habiter où? Dans le 7e?
Presque. Dans le 15e,
ah oui.
À Paris, quoi. Mais c'était ma sécurité, je veux dire. Vous voyez, quand je dis je pouvais le faire, c'était ça aussi. Oui. C'était que j'avais un endroit, je l'ai prêté pendant que je n'étais pas là. Oui. Parce qu'effectivement, je m'étais dit, le soir, quand je sors tard, n'importe quoi, je vais recoucher chez moi. Et puis tout d'un coup, j'avais l'impression d'être schizophrène. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne veux pas être là-bas. Et puis dans le 15e, et puis revenir à Noisy, c'était vraiment trop compliqué. Donc voilà, je l'ai prêté. Et puis quand je suis rentrée. Il y a eu les vacances en temps.
Mais qu'est-ce que vous faisiez dans la vie?
Avant ça, quoi, vous voulez dire?
Vous voulez dire, pendant que vous habitiez là, vous me disiez j'habitais Paris, j'ai travaillé à Paris, qu'est-ce que vous faisiez?
Ben, je suis à la retraite depuis longtemps et je suis adhérente au mouvement Télécar Monde et on m'a chargé de ce qui s'appelle le réseau culture. C'est-à-dire de mettre en lien des gens qui ont la conviction que j'ai, que la culture est un des moyens très 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 efficaces pour redresser la tête.
Quel est votre nom?
Anne de Margerie.
Pourquoi vous rigolez?
Je rigole parce que chaque fois que je dis Anne de Margerie, on me dit ah ouais, total. Je dis c'est la même famille, mais moi je le connais pas.
Oui, enfin vous avez quand même un nom à particules. C'était quand même un peu la bourgeoise qui faisait s'installer chez les pauvres.
Absolument, ça peut tout à fait être vu comme ça. C'était vraiment la bourge qui dit oh, je fais mes bonnes âmes. Ben non, c'était pas tout à fait ça, quoi.
Si on veut en savoir plus sur votre expérience, ben, y a un livre que vous avez écrit, Si loin, si proche, aux éditions ATD Quart Monde.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations avec Aurélie Bambuc.
La France s'associe au peuple rwandais pour honorer la mémoire de toutes les victimes du génocide. Communiqué de l'Élysée en cette journée de commémoration, 20 ans après le massacre de 800 000 Tutsis. La France n'a aucun représentant officiel à Kigali. Le déplacement gouvernemental de Christiane Taubira a été annulé après les nouvelles accusations du président rwandais ce week-end. En réponse, les autorités rwandaises ont retiré l'accréditation à l'ambassadeur français au Rwanda. À Kigali, Paul Kagame a une nouvelle fois fait allusion au rôle de la France dans le génocide. Le président rwandais, pendant les cérémonies, a déclaré en anglais qu'aucun pays n'est assez puissant, même s'il pense l'être, pour changer les faits, avant de lancer en français « Après tout, les faits sont têtus ». Les 30 000 spectateurs rassemblés dans le stade Amahoro de Kigali l'ont applaudi. Manuel Valls rencontre en ce moment à Matignon les chefs de groupe parlementaire des écologistes. Le Premier ministre cherche à convaincre à la veille de son discours de politique générale et du vote de confiance à l'Assemblée nationale. Hier, il recevait les députés PS qui demandent un nouveau contrat de confiance avec le gouvernement, des députés proches de la gauche du parti. Accueil compréhensif à Berlin pour les nouveaux ministres français des Finances et de l'Économie. Michel Sapin et Arnaud Montebourg sont venus défendre les choix budgétaires de Paris. Michel Sapin a rencontré son homologue des Finances, Wolfgang Schäuble. L'Allemagne a besoin d'une France forte, a dit le ministre allemand. Il ne faut pas tout réduire à la seule question de la baisse des déficits, a-t-il ajouté. La France s'est engagée à ramener son déficit public sous la barre des 3% du PIB l'an prochain. 500 euros d'amende pour avoir dit non aux pesticides. C'est la condamnation d'un viticulteur bourguignon. Il avait refusé de traiter ses 10 hectares de chardonnay et de pinot noir contre une grave maladie de la vigne. Les réquisitions lors de l'audience du 24 février ont été suivies. Un rebondissement au procès de Maurice Agnelet, le troisième, dans l'affaire de la disparition d'Agnès Leroux il y a 36 ans. Le fils de Maurice Agnelet accuse son père d'être le meurtrier de la riche héritière d'un casino niçois. Il s'est confié via visioconférence depuis Chambéry ce matin. Guillaume Agnelet révèle que son père lui a avoué le meurtre d'Agnès Leroux. Après ces révélations, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a ordonné le mandat de dépôt à l'encontre de Maurice Agnelet qui comparaît libre. Guillaume Agnelet sera de nouveau entendu mercredi à Rennes cette fois. Nouveau coup de force des militants pro-russes en Ukraine, dans l'Est russophone. Une centaine de séparatistes ont proclamé la création d'une république à Donetsk. Ils réclament l'organisation d'un référendum sur la création de cette nouvelle entité. Les plus grands grandes élections jamais organisées en Inde, élections législatives à partir d'aujourd'hui. Elle pourrait porter au pouvoir un dirigeant nationaliste controversé. Il succéderait au parti du Congrès de la dynastie Gandhi. 814 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Un défi logistique. Ce marathon électoral se déroule en 9 étapes jusqu'au 12 mai. 1 million de bureaux de vote répartis dans tout le pays. Les résultats seront proclamés le 16 mai.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Rendez-vous cette semaine dans Live Me Do au Studio 105 avec le Rhythm and Blues Old School de Nick Waterhouse. Without the net she thinks is under her. Boom, boom, boom. Le rockabilly teinté d'électro de Mustang. Et un pur moment de rock'n'roll psyché de Brian Jonestown Massacre.
Live Me Do. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous mercredi à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
16h04, l'heure de retrouver Carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Aurélie Bombic, on vous retrouve à 17h pour de nouvelles informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Kantorov, fameux violoniste et chef d'orchestre. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Et Alexandre Kantorov, désormais fameux pianiste. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer par le père. Jean-Jacques, un merveilleux pianiste, Glenn Gould, légendaire même, a dit que vous êtes un très grand du violon, un talent époustouflant, violoniste le plus prestigieusement original de cette génération qu'il a entendu, a-t-il dit. En plus de ça, vous êtes chef d'orchestre. D'ailleurs, vous aviez décidé de vous consacrer uniquement à la direction d'orchestre depuis quelques temps. Vous avez enregistré plus de 160 disques en tant que soliste et en tant que chef pour des maisons très importantes comme Denon, EMI, Erato, qui renaît, d'ailleurs on est très content, CBS, BIS, etc., etc. Alors, honneur au père d'abord, vous permettez, jeune homme, hein, parce que bon, on vous aime beaucoup, mais enfin...
C'est la préférence, c'est normal.
Nous, on est copains depuis, on va pas dire combien, 40 ans, quelque chose comme ça avec votre père. Hein. On a joué ensemble beaucoup. Alors, Jean-Jacques Kantorov comme chef d'orchestre, ouverture un peu orientale d'Abou Hassan de Karl Maria von Weber, l'histoire de deux pauvres gens qui essayent de gruger le calife parce qu'ils sont en difficulté, puis ils vont être pardonnés, évidemment, ça a été un très grand succès.
We'll be right back.
Ouverture d'Abou Hassan de Carmela von Weber avec le Tapiola Sinfonietta, dirigé par vous-même, Jean-Jacques Kantorov, un orchestre finlandais. Donc.
Exactement, qui réside à Espoo, qui est la seconde ville de Finlande, c'est la ville dortoir d'Helsinki en quelque sorte, donc tout à fait rattachée à Helsinki.
Voilà, mais vous avez dirigé, vous continuez à diriger beaucoup d'orchestres d'ailleurs dans le monde entier, au Japon aussi, en France, vous n'oubliez pas la France. Quand
oui,
il faut.
Bon, je fais beaucoup de travail avec Sinfonia de Varsovia notamment, parce que nous faisons toutes les